Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les jeudis, le réveil culturel se fait en musique. Et ce matin, comme on peut l'entendre, c'est John Coltrane qui est à l'honneur. John Coltrane, saxophoniste de jazz, compositeur et chef de formation, né en Caroline du Nord le 23 septembre 1926, est mort prématurément à l'âge de 40 ans à New York le 17 juillet 1967. Et durant sa courte vie, John Coltrane révolutionna le jazz en lui insufflant une nouvelle dimension quasi mystique et des arrangements inédits. Un virtuose et un révolutionnaire donc. Et aujourd'hui, nous avons un excellent alibi culturel pour évoquer John Coltrane, la sortie d'une biographie éditée par Le Mot et le Reste, intitulée « John Coltrane, The Wise One ». Son auteur, Nicolas Philly, est mon invité.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Nicolas Philly.
Bonjour.
Alors, vous êtes breton d'origine, vous avez travaillé 2 ans au Festival des Transmusicales de Rennes avant de devenir disquaire, d'abord chez vous à Rennes, puis à Bruxelles où vous vivez toujours.
Tout à fait.
Et depuis quelques années, vous êtes même chroniqueur principalement de jazz pour le webzine Good Midisc, John Coltrane de Wise One, qui vient de sortir chez Le Mot et le Reste, et votre premier ouvrage. D'abord, pourquoi John Coltrane ?
Alors pourquoi John Coltrane ? Déjà parce que je suis un grand fan de jazz, donc forcément John Coltrane c'est un des premiers noms qui vient quand on évoque le jazz. Et aussi parce que j'aime beaucoup le personnage. Le personnage est aussi fascinant que sa musique parce que c'était quelqu'un de foncièrement bon. Et du coup ça m'intéressait vraiment de transmettre la vie de cet homme à la fois et sa musique. Parce que je trouve que l'un et l'autre vont très bien ensemble. Et donc du coup j'ai choisi Coltrane parce que voilà, il me passionne depuis des années. Et en plus, là, en l'occurrence, ça s'est fait aussi parce que c'était les 50 ans de sa mort en 2017. Et du coup, j'avais écrit pour le webzine pour lequel je travaille, là justement, j'avais écrit un article là-dessus. Et je m'étais dit à l'issue de cet article, pourquoi pas en faire un livre. Et du coup, c'est comme ça que mes...
Et vous avez approfondi vos recherches.
Tout à fait, j'ai même appris beaucoup en écrivant, en même temps que j'écrivais. J'ai vraiment beaucoup lu, beaucoup écouté. J'ai acheté toute la discographie, je me suis imprégné vraiment pendant 1 an et demi... de Coltrane, et du coup voilà, et ça aboutit à ce livre.
Eh ben, si vous voulez bien, Nicolas Philly, on va parler de l'homme, on va parler du musicien, et puis surtout, on va terminer par évoquer l'arrangeur, celui qui a révolutionné le jazz. Mais s'il fallait commencer par ce qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire Lucien Lullaby, ça correspond à quelle époque de la vie et de la carrière de John Coltrane?
Alors, Coltrane a eu 3 labels principalement, donc Prestige, Atlantique, puis Impulse, et donc ça en l'occurrence
en solo, bien sûr, en
tant que leader, je parle en tant que leader.
Ouais.
Donc Soul Train, là, le disque dont est issu justement Russian Lullaby, c'est un peu le meilleur des résumés de cette période-là, où il cherche encore un petit peu, son style n'est pas encore parfaitement défini, mais il commence déjà avec une première évolution qu'on appelle les sheets of sound, c'est une expression qui est rentrée un peu dans le langage courant quand on parle de Coltrane, qui était d'un journaliste qui s'appelle Ira Gittler. Et qui montre en fait la manière que Coltrane avait de révolutionner les harmonies en multipliant comme ça des arpèges surrythmés qui donnaient une espèce de ce qu'on appelle en français, ça avait été traduit par des grappes de notes très rapides comme ça où les intervalles sont vraiment disséqués comme ça très courts et du coup ça crée une forme d'urgence un peu. C'est pour ça que là on sent justement sur ce morceau là, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. C'est qu'il est connu aussi parce que Ella Fitzgerald en a fait une interprétation qui est beaucoup plus classique. Et quand on met les deux côte à côte, on se rend compte à quel point il est, comment dire, transporté par une espèce de verve comme ça, qui est donc justement symbolisée par ces sheets of sound, donc sa première évolution. Et c'est pour ça que ce morceau-là est particulièrement intéressant, je trouve, parce qu'il résume très bien cette première période donc chez Prestige, donc qui quitte en 59, donc un an après ce disque-là. Et ce disque-là, Soul Train, en l'occurrence, c'est le plus représentatif, je pense, et le plus abouti, le plus mature, on va dire, le plus mûr de cette période-là.
Comment se fait l'initiation du jeune John Coltrane, Nicolas Philly? On sait que à la fin de la guerre, en 1946, il va apparaître dans l'orchestre de l'US Navy, qui va se mettre au service des musiques qui faisaient danser les Américains.
Le bop.
Et puis que sa route va croiser, bien sûr, le grand Charlie Parker, la chanteuse Dinah Washington, avant d'être embauché par Dizzy Gillespie, et puis travailler avec le pianiste Thelonious Monk, et puis enfin arriver à intégrer le quintet original de Miles Davis. C'est à partir de là.
C'est pas tout à fait dans cet ordre-là, parce qu'il commence d'abord par Miles Davis,
ah bon,
puis Monk. Ah. Ouais, parce que Miles Davis, il joue avec lui à deux périodes distinctes. De 55 à 57 à peu près, en gros juste avant qu'il rencontre Monk, donc là il joue en 57 avec Monk, et après il revient dans le giron de Miles Davis.
De la fin de la guerre jusqu'au début des années 50, il va faire des rencontres.
C'est vraiment le trait principal de son début de carrière, c'est que lui-même a besoin de se nourrir de plein d'expériences, donc il rencontre plein de gens, d'univers vraiment différents. Il y a des choses aussi qui sont beaucoup moins glorieuses que ce que vous venez de citer, mais vraiment c'est un musicien, c'est pas un musicien comme certains qui ont un don de naissance comme ça, qui font d'eux des génies à 5 ans capables de composer tout de suite. Lui, il était plus, il avait besoin d'apprendre des autres, il avait besoin de travailler, c'était vraiment un acharné de travail. Toutes les biographies sur lui insistent sur ce fait-là, et c'est vrai, c'était vraiment un bourreau de travail.
Et que s'étend de son enfance, de son initiation à la musique?
Ben en fait, ça s'est fait, il baignait dans un univers qui était très musical, parce que ses deux parents étaient eux-mêmes des musiciens, amateurs, mais musiciens quand même. Et comme il a grandi aussi dans un environnement assez religieux, à l'église par exemple, où les sermons étaient habillés de musique tout le temps, de danse et de choses comme ça, ça fait que très rapidement il a baigné là-dedans, et du coup il a vraiment commencé à pratiquer très sérieusement quand son père est mort, quand il avait 13 ans, comme pour conjurer un peu ça, et donc là il a commencé à travailler
tout de suite le saxophone,
d'abord clarinette et saxophone alto aussi, pas mal, mais pas tout de suite le ténor c'est venu plus tard. Et du coup là, il avait 13 ans quand son père est mort, et à partir de là il travaille vraiment comme un acharné, enfin tous ses professeurs à l'école ont pu en témoigner, c'était vraiment un grand 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 bosseur. Et donc jusqu'à ce qu'il soit, justement, vous l'évoquiez là, qu'il parte à l'armée. Et c'est à son retour de l'armée qu'il commence vraiment à professionnaliser sa pratique. Et que là, il multiplie justement les engagements avec des musiciens, donc tantôt prestigieux comme ceux que vous venez de citer, tantôt moins prestigieux, et qui continue à apprendre. Et justement, c'est aussi à cette période, un peu plus tard aussi, qui se fixe sur le ténor. C'était lié à une rencontre musicale. En fait, il avait été embauché par un saxophone alto. Et donc du coup, forcément, il y avait une place que pour un saxophone ténor, donc c'est là qu'il commence à découvrir cet instrument-là, et qu'il arrive aussi à se délester un peu du poids de Charlie Parker sur l'alto. Ça l'a vraiment libéré, parce que Charlie Parker avait fait tellement pour l'alto qu'il restait finalement assez peu de place à la révolution pour cet instrument-là, et donc avec le ténor, justement, il a pu se libérer et à son tour apporter quelque chose à l'instrument.
Nicolas Philly, dans votre ouvrage John Coltrane, The Wise One, d'ailleurs ça reprend un des titres de John Coltrane bien sûr, Nicolas Philly, vous parlez des débuts de Coltrane en tant que musicien de studio, musicien participant avec d'autres pointures déjà installées en tant que grand musicien. Est-ce qu'il y a déjà le style Coltrane, une manière de jouer propre à lui. Est-ce que c'est dans les studios d'enregistrement, à l'ombre des grands musiciens comme Miles Davis, pour parler du dernier qui va l'embaucher dans son quintet, ou c'est sur scène qu'il va se faire remarquer ?
Sur scène, il n'y a pas énormément de témoignages, malheureusement, qui nous sont parvenus. En studio, on sait qu'il avait déjà une tendance, par exemple, ce qui est marquant chez lui, c'est qu'il a une tendance déjà à aller beaucoup vers l'aigu quand il joue. C'est vraiment un truc qu'on remarque dès ses premiers solos, avec notamment avec Dizzy Gillespie. On le remarque tout de suite. Et après, la vraie révolution, ça vient déjà dans un premier temps quand il joue avec Miles Davis, qui lui donne une vraie confiance en lui, parce que bah forcément, quand Miles Davis a confiance en vous, ça vous transcende, d'une certaine manière. Et surtout, après, avec Thelonious Monk, il y aura un passage de 6 mois dans un club qui s'appelle le Five Spot, à New York. Et là, tous les témoins de l'époque vous le diront, c'était vraiment une révolution presque musicale, parce que les quatre jouaient, donc c'était en quartet. C'était en 57 qu'ils jouent, donc il y avait juste la rythmique, et puis Monk au piano et Coltrane au ténor. Et Monk a une tendance comme ça, souvent à s'éclipser, à partir dans des danses un peu transcendantales comme ça, et donc mais vraiment il quittait littéralement la scène, vraiment au sens propre du terme, ce qui fait que ça laissait une grande latitude à Coltrane, qui était du coup le seul soliste.
N'est-ce pas là la définition du free jazz, ou ce qui va devenir le free jazz, Nicolas Philippe?
C'est un petit peu tôt pour parler de ça, mais en tout cas là une des premières choses qui était vraiment marquante chez Coltrane, c'est que du coup il y avait cet allongement des solos comme ça, parce qu'il avait beaucoup de place du coup, parce que déjà même quand Monk l'accompagnait, Monk laisse beaucoup de silence comme ça, et il laisse beaucoup de d'ouverture comme ça pour le soliste qui joue à ses côtés, et surtout encore plus quand il choisissait justement de quitter la scène, et que Coltrane pouvait justement s'époumoner comme ça pendant, enfin il faisait des solos qui allaient de un quart d'heure, des fois 20 minutes comme ça, et du coup c'est là qu'il a vraiment pris conscience lui-même de son talent et confiance tout court, et qu'il s'est vraiment révélé complètement. Et c'est à partir de cette époque-là que vraiment Coltrane est considéré comme une icône dans son domaine, dans son instrument.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
John Coltrane en 1961, Olé, de l'album du même nom. Et nous sommes avec Nicolas Philly qui vient d'écrire un livre monumental. Hein. C'est assez consistant, Nicolas Philly, avec votre livre John Coltrane, The Wise One. Alors, The Wise One, ça viendra plus tard, hein, dans l'album qui sortira bien plus tard. Là, on est en 1961. Est-ce que là, il est déjà le grand musicien de jazz que tout le monde va acclamer ensuite?
Oui. Là, c'est... Ça y est, il est installé. Parce qu'il y a eu le disque Giant Steps qui est sorti, qui est vraiment le disque qui construit son mythe, c'est de là que ça part.
Donc, il a enregistré alors qu'il était toujours avec Miles Davis. Hein.
Il enregistre, ouais, c'est juste après Kind of Blue qu'il enregistre ça, donc c'est un an à peu près avant Olé. Et donc oui, là on peut dire que c'est déjà un grand musicien, et que là il est quand même reconnu tout court aussi. et qu'il a du succès et que ça commence à bien décoller.
Alors justement, pour parler de John Coltrane, vous écrivez, Nicolas Philly, il y aura un avant et un après Coltrane. Qu'est-ce que Coltrane va ramener au jazz ?
En l'occurrence, puisque là on vient d'entendre Olé, par exemple, là-dessus, il a vraiment révolutionné le rythme, par exemple, sur ce morceau-là en particulier. Parce qu'à ce moment-là, à la fin justement de sa période avec Atlantic, qui est son second label, auquel je faisais référence tout à l'heure, il s'ouvre beaucoup sur les musiques du monde et les folklores du monde entier et la musique modale que Miles Davis justement l'a initié. Et donc là, à ce moment-là, sur Olé, c'est vraiment prégnant parce que là, on sent tout de suite, forcément rien que dans le titre, on sent déjà l'influence des modes phrygiens, donc qui sont vraiment c'est typique du flamenco. Donc là, on sent les influences espagnoles d'une part, et surtout, et c'est surtout vrai sur ce morceau-là, il a vraiment un nouveau concept de double basse, c'est-à-dire qu'il double le poste de contrebassiste. Donc là, ils sont deux à jouer. Et ça, ça lui vient des ragas indiens, donc de la musique indienne de l'Inde du Nord, qui justement avait des rythmes qui étaient très différents de la musique occidentale. Parce qu'il y avait deux instruments qui étaient la tempura et les tablas, qui servaient justement à rythmer la musique indienne. Et donc il va s'inspirer de ça. Et au lieu d'avoir une tempura et des tablas, il va choisir d'avoir deux bassistes. Donc l'un et l'autre auront vraiment des rôles bien définis. Il y en a un qui va assurer la pulsation, on va dire classiquement. Et l'autre qui va être beaucoup plus libre, qui va pouvoir improviser et laisser un peu son... Il peut vraiment faire ce dont il a envie, d'une certaine manière. Et donc ça crée vraiment une espèce de bourdonnement, ce que Coltrane appelait une drone bassline. Et c'est ça qui est vraiment une des révolutions justement rythmiques de Coltrane. Et ça, c'est
elle
déjà...
est de son époque, Nicolas Philly. Est-ce qu'il est imprégné de ce qui se passe aux États-Unis au début des années 70, cette ouverture aux musiques indiennes? On pense bien sûr au beatnik, bientôt rejoint par le mouvement Baba. Est-ce qu'il est dans cette mouvance, John Coltrane?
Du coup, puisqu'il le fait 10 ans avant quasiment, on peut dire qu'il est précurseur en la matière. C'est vrai que l'ouverture à l'Inde, par exemple, c'est ce que je vous disais, c'est quand même très très nouveau. Mais pour aller jusqu'à dire qu'il est dans le mouvement beatnik, c'est un peu prématuré. Il y a un long chapitre que je consacre à un disque qui s'appelle Home. Donc là, qu'il enregistre beaucoup plus tard, c'est vraiment à la fin de sa vie, en 65. Et là, effectivement, je parle presque de jazz psychédélique, parce que là, il y a aussi une histoire de LSD derrière. Enfin, la légende autour du disque vaut déjà le coup d'être lue. Et écoutez, surtout écoutez. Donc je dirais que c'est peut-être un peu prématuré de parler on peut pas parler de lui comme un beatnik, sûrement pas. En plus, c'est vraiment.
Mais alors, il fréquente qui à cette époque, John Coltrane, Nicolas Philly?
Principalement des musiciens, quasiment exclusivement des musiciens.
De jazz ou pas forcément de jazz?
De jazz, quasiment exclusivement de jazz, vraiment. Il est quand même relativement casanier. C'est pas quelqu'un qui va. Il a eu des problèmes avec la drogue comme à peu près tous les musiciens de jazz à l'époque. Mais il en est sorti déjà en 57, donc ça, là on est en 61 avec Olé, donc là il est vraiment rangé de ce côté-là. Il est clean, vraiment. Donc il a une vie vraiment d'asset, quoi. Il vit vraiment pour sa musique, il ne fait que ça à longueur de temps, quoi. Il a une femme à ce moment-là, une première femme qui s'appelle Naïma. Sinon, il fait vraiment que bosser, 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 bosser. Donc, parler de lui comme étant un beatnik, ça me paraît, ça n'a pas vraiment de sens, je pense encore.
Dans votre livre, vous dites aussi que vous aimez l'homme, John Coltrane, même si vous appuyez que sur sa carrière artistique. Ce qui a été dit sur lui au moment où ces disques sortaient. Vous citez entre autres Sonny Rollins, pour rappeler qu'il n'était pas du tout rivaux, puisque Sonny Rollins dira quand on connaissait bien John, il était tout à fait impossible d'éprouver pour lui autre chose que de l'admiration, du respect et de l'amitié. Qu'est-ce qui vous plaisait chez l'homme, Nicolas Philly?
C'est vraiment un halo comme ça, on pourrait dire, de bienveillance, quoi. Vraiment, c'est vraiment ce que tous les témoins de l'époque tous les témoignages de l'époque ont en commun, cette description d'un personnage affable, certes peut-être un peu taciturne même parfois, mais c'était vraiment quelqu'un de foncièrement bon, qui dirigeait ses musiciens avec beaucoup de patience, de gentillesse, de politesse. Il était très poli. Il y a assez peu, malheureusement, de témoignages oraux de lui. On l'entend très peu en interview ou tout ça. Mais le peu qui existe, on sent vraiment chez lui vraiment une aura. C'est difficile à expliquer, en fait, vraiment. Mais ça se ressent. C'est viscéral. On sent que c'est quelqu'un de foncièrement bon. On le sait, même au moment où il est interviewé, par exemple, à la période de la guerre du Vietnam, des choses comme ça. C'était un grand pacifiste. Vraiment, il voyait toujours, même face au pire problème, il voyait toujours une solution, il voyait toujours une lumière au bout du tunnel. Et
ce caractère quasi mystique que vous retrouvez dans sa musique, dites-vous, Nicolas Philly, à propos de John Coltrane?
Le disque le plus connu qu'il fait, c'est Love Supreme. Mais justement, à travers ce disque-là, on comprend tout de suite que c'était un universaliste religieux. C'est comme ça que je l'appelle dans le livre. Parce qu'il avait pas vraiment, il y avait pas vraiment de dogme au-dessus de lui. Il était à la fois musulman, à la fois chrétien. Il lisait la Kabbale. Il était beaucoup aussi dans l'astrologie. Il s'intéressait à la cosmologie. Il s'intéressait à plein de choses, même les mathématiques, vraiment. Donc c'était une espèce de conjonction comme ça, de plein de croyances, de qui faisait de lui donc un universaliste religieux comme ça. Et il y avait pas vraiment de personnification non plus de Dieu, c'était plus ce que lui appelait un créateur, et Pharoah Sanders aussi fera référence à ce créateur, qui faisait qu'il voulait en fait rendre ce que Dieu lui avait donné à travers sa musique. C'est vraiment là qu'on peut parler de lui comme d'un mystique.
C'est un extrait de Cosmic Music, Nicolas Philly.
Ouais, Reverend King, c'est ça. Qui est un morceau qui sort en 66, enfin qu'il enregistre en 66, au moment où il est rentré de plein pied dans le free.
L'année d'après, il meurt,
malheureusement. Mais il aura quand même eu le temps de faire 2 ans comme ça de musique très free et qui est très très riche, parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements qui datent de cette époque-là. Et où on se rend compte que, Coltrane était d'une certaine manière arrivé au terme de sa quête, à la fois spirituelle et musicale. On a envie de croire qu'il était arrivé au bout. Je pense quand même qu'il avait encore d'autres choses à dire, mais on a envie de se dire que c'est une belle fin, justement, comme c'était parti très très loin. C'était presque incompréhensible d'ailleurs à l'époque pour beaucoup d'observateurs. Il avait vraiment vraiment évolué à ce moment-là, et donc il quitte le monde là-dessus, et c'est malheureux, mais au moins il y a des témoignages extraordinaires de cette période-là.
Nicolas Philly, je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui vient de sortir chez Le Mot et le Reste, John Coltrane, The Wise One. Vous êtes trentenaire. Comment vous avez découvert John Coltrane et pourquoi il vous touche, il vous parle aujourd'hui?
Alors, je l'ai découvert simplement, comme beaucoup de gars de mon âge, justement, parce que j'ai commencé à écouter beaucoup de hip-hop quand j'avais entre 15 et 20 ans. Et de fur et à mesure, en essayant de creuser un peu les morceaux via le sampling, par exemple, essayer de comprendre les instrumentaux
d'où viennent-ils,
d'où ils venaient, j'en suis arrivé au jazz. d'abord. Et puis après, dans le jazz, j'ai moi-même creusé via des labels, via des collaborations. J'aimais bien, par exemple, j'aimais beaucoup Miles Davis au début. C'est comme ça que je suis arrivé à Coltrane. Et après, tout simplement, voilà, ça a été une révélation. Cette musique m'a juste happé et j'en suis arrivé à même en faire un bouquin. Et j'espère avoir justement réussi à transmettre cet amour que j'ai pour lui et qu'il donne aux gens.
Merci beaucoup, Nicolas Philly. Vous pouvez réécouter cette émission en passant par franceculture.fr. Le réveil culturel préparé avec Maël Ray et Corinne Amard, réalisé par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique Marie Le Peintre. Bonne journée, Nicolas Philly.
Merci beaucoup pour l'invitation. Thank you.